Ce matin, j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur le début et sur la fin. On demandait un jour à un enfant de lire à haute voix le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on demanda ensuite à cet enfant, je suppose que c'était le pasteur, il lui pose une question un peu difficile, en tout cas moi j'aurais pas répondu comme cet enfant. Au commencement de quoi ? Lui est-il demandé. Et l'enfant de répondre fort justement, au commencement de tout, excepté de Dieu. C'est sur un feuillet que j'ai trouvé cette histoire. Quelle bonne réponse, pleine de foi, et quelle leçon utile pour moi, et peut-être pour toi aussi. Sur le feuillet, j'aime bien garder les feuillets. Ma femme me le reproche parfois parce qu'il y en a. Sur le feuillet du 7 janvier, jour du massacre au Nigeria et des premiers attentats en France, le verset était celui de 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pour illustrer ces diverses situations que nous allons forcément traverser au long de cette nouvelle année, je veux parler de l'avant, de l'après, du début et de la fin. L'exemple de Noé me paraît être assez explicite pour que nous nous arrêtions quelques instants sur les différents temps forts de la vie de cet homme dont l'Épître aux Hébreux nous parle en ces termes, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, l'arche, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Première partie, donc, la construction de l'arche et le déluge. Et nous allons lire ce passage qui va s'afficher. Si tout se passe bien, mais avec Philippe ou André, je ne suis pas inquiet. Donc Genèse au chapitre 6, à partir du verset 5. C'est dans la version la Bible du Semeur. C'est une histoire que vous connaissez probablement, mais c'est bien de la relire, de la réécouter. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Tiens. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici donc l'histoire de cette famille, de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures car, à cause des hommes, la terre est remplie de violence, d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, dit Dieu, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire, sous le ciel, tout être animé de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle, de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. On connaît peu de choses de la vie de Noé, si ce n'est qu'il était marié, qu'il avait trois fils, qu'il avait des belles filles. Mais ce que l'on sait, c'est que à cette époque-là, et je dirais que malheureusement l'histoire se répète, il y avait une telle corruption, un tel éloignement de Dieu, une telle révolte, que Dieu a décidé d'exterminer la race humaine et les animaux, sauf une famille, Noé. Et pourquoi ? Genèse 6, verset 9, « Parce qu'il marchait avec Dieu », ou dans d'autres versions, il est dit « il vivait en communion avec Dieu ». Ce qui voulait dire que Noé craignait Dieu et voulait lui obéir et le servir. Il avait donc une certaine connaissance de Dieu, ou plus précisément une connaissance certaine de l'œuvre créatrice et de la sainteté de Dieu. Seuls deux hommes de cette époque antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, ont été annoncés par Dieu comme étant justes et intègres et marchant avec lui. Il s'agit d'Enoch et de Noé. C'est peu, n'est-ce pas ? En tout cas, pour ce qui nous est révélé par la Bible. Autre trait de caractère de cet homme de foi, c'est qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne réalise pas bien ce que signifie ce « tout ». Je comprends seulement qu'il s'agit vraiment d'un engagement total, complet, d'une obéissance sans faille de sa part. Cela n'a pas dû être évident pour Noé, cependant, le mot est faible, de faire savoir tout d'un coup à ses voisins, à ses amis, qu'il avait reçu un ordre de Dieu lui demandant de construire un bateau de taille impressionnante, ce n'était pas une barquette, si loin d'un port. Nous imaginons volontiers les remarques colibées, plus ou moins ironiques, plus ou moins grossiers, parfois du style « Mais mon pauvre Noé, tu es complètement fou, tu as cru entendre la voix de Dieu, mais tu avais peut-être un peu bu ou fumé des herbes, comme on dirait maintenant. Tu as fait un mauvais rêve, réveille-toi !» On imagine dans quelle atmosphère il a commencé la construction sous le regard moqueur des personnes qui ne manquaient pas de venir visiter le chantier. Si la presse et les médias avaient existé à cette époque, on imagine bien les titres. Un certain Noé a commencé la construction d'un navire en plein coteau. Nous mènerait-il en bateau ? On réalise qu'un tel projet, construire un navire de 150 mètres de long, 25 mètres de large, haut de 15 mètres et sur 3 étages, sans assistance informatique, sans logiciel de CAO, c'est construction assistée par ordinateur. J'ai été vérifier mes sources parce que sans grue, sans une main-d'œuvre qualifiée nombreuse, n'a pas dû être facile. Et pourtant, Noé et ses fils, et ses belles-filles, et sa femme, a poursuivi les travaux pendant des mois et des mois jusqu'à la réalisation complète et parfaite du plan de Dieu. Puis, après avoir fait entrer dans le navire un couple de chaque animal de la création, comme Dieu lui demandait, et après avoir mis toute sa famille à l'abri du jugement à venir, Dieu lui-même ferme la porte de l'arche. Genèse 7, verset 16. En effet, à l'époque, il n'y avait pas forcément de télécommande, vous savez, pour fermer à distance. Mais ce qui est extraordinaire dans ce détail, en tout cas, moi, ça m'a Ça m'a repris en lisant et en relisant ce texte, c'est que même dans ce détail, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est lui qui ferme la porte quand tout le monde, les animaux de la création et surtout Noé et sa famille, sont à l'abri à l'intérieur. Dieu est souverain, il prend soin de Noé, de sa famille, et il les place sous sa protection. Il se porte garant, en quelque sorte, par le fait qu'il ait lui-même fermé la porte de ce bateau. Il se porte garant de la suite des événements. Vous avez peut-être entendu parler ou vu, une fois ou l'autre, l'émission « Rendez-vous en terre inconnue ». Alors, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est le concept de cette émission, c'est d'inviter quelqu'un, j'allais dire une personnalité, pas forcément, d'inviter quelqu'un et de le dépayser complètement, de le transporter sans qu'il connaisse la destination finale, dans un pays, dans une culture bien différente et la plupart du temps très éloignée. Ici, pour Noé et les siens, c'était bien plus que cela. C'était pas partir pour une terre inconnue, c'était partir pour une nouvelle terre, recommencer à zéro et ne pouvoir compter que sur Dieu. Et comme disent les jeunes aujourd'hui, là je me suis renseigné juste avant le culte, respect, monsieur Noé. Lorsque, après une année passée dans le navire, une année, les eaux baissent enfin, Noé et les siens retrouvent la terre ferme. Quelles sont les premières préoccupations de Noé ? Est-ce qu'il a sorti un papier, un crayon, disant « Bon, je vais établir le calendrier des semailles, je vais peut-être aussi construire une maison pour ma famille, ou bien je vais explorer le territoire autour ?» Non, non, rien de cela. Nous allons voir ce que fit Noé, Genèse 8, versets 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Il offrit donc des holocaustes. Il a en fait remercié l'Éternel, remercié Dieu. Il a voulu l'honorer, lui rendre grâce et lui dire « Seigneur, si nous sommes là, c'est vraiment parce que c'est toi qui a agi. » Après l'histoire de Noé, on peut raisonnablement se poser la question de quel sera notre projet de construction à nous pour 2015. Et je ne parle pas des éventuels travaux, projets d'agrandissement de la chapelle. Avant de construire, il nous est demandé dans la parole de Dieu de faire le bilan. Bilan de notre engagement, bilan de nos forces, bilan de nos finances. Je ne parle pas du bilan comptable auquel sont tenus les chefs d'entreprise. Il faut en effet boucler les comptes, c'est le terme utilisé par les comptables. Cela signifie qu'il faut répertorier au 31 décembre, si l'exercice correspond à l'année civile, toutes les richesses et toutes les dettes de l'entreprise pour établir le bilan, bilan qui va refléter soit la bonne santé, soit les difficultés de l'entreprise. Qu'en est-il du bilan de l'année écoulée dans notre marche avec le Seigneur ? Est-il non pas négatif ou positif, car notre Dieu, heureusement, ne raisonne pas en termes comptables, mais a-t-il concouru à la gloire de Dieu ? Notre bilan, mon bilan, a-t-il concouru à la gloire de Dieu ? Rappelons-nous la parabole des talents. Ce n'est pas la quantité d'argent ou de dons qui est importante, mais l'engagement, l'obéissance et la manière dont nous les aurons fait fructifier. Une fin d'année est aussi l'occasion d'un bilan plus général, bilan des joies et des difficultés, des bénédictions et des épreuves, des naissances et départs pour la patrie céleste, de la santé, de la maladie, de notre engagement ou de notre éloignement du Seigneur et de notre communauté ecclésiale. Peut-être pensez-vous à cet autre passage du Nouveau Testament où le Seigneur lui-même déclare qu'il n'était pas bon pour le laboureur de se retourner sur son travail, car alors il n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62. Juste un petit commentaire pour vous dire comment je comprends ce passage. Soit on se retourne derrière comme la femme de Lot pour regretter et se plaindre. Elle regrettait sa vie passée à Sodome dans cette société aux mœurs perverties, dépravées. Soit on se retourne pour considérer les bénédictions de Dieu. Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, la première Pâque, dit Dieu à son peuple. Dans 2 Timothée 1, verset 5, l'apôtre Paul dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Aussi, me semble-t-il, il est bon de se retourner en fin d'année ou en début d'année, pour un temps, sur l'année qui vient de s'achever, et peut-être pour se poser la question de savoir si j'ai bien exécuté tout ce que Dieu m'avait ordonné. Noé, lui, l'a fait. Je n'ai pas besoin de vous dire que Jean a bien souvent attristé le Seigneur, mais si je peux continuer ma marche, et toi également, c'est parce que Jésus a payé le prix pour mes manquements, pour mes désobéissances, pour mes péchés. Cette marche en 2015 va nous conduire vers quels objectifs ? Allons-nous nous engager, nous impliquer davantage dans telle ou telle activité de l'Église ? Ou bien allons-nous apporter nos connaissances et nos dons dans une œuvre qui va glorifier le Seigneur ? Ou bien allons-nous prendre à cœur et à charge un enfant déshérité ? Savez-vous qu'il y a une œuvre qui s'occupe d'orphelins à Bamako ? Savez-vous que le CEL propose des parrainages ? Savez-vous que d'autres œuvres aussi sont engagées dans cette mission ? Récemment, et même si nous connaissions le parrainage d'enfants par le CEL depuis longtemps, j'ai été vivement touché par la lecture de deux livres qui étaient proposés par le CEL et qui se trouvent à la bibliothèque et que je vous recommande. Il s'agit de « Trop petit pour être oublié » de West Stafford et de « Les femmes et les enfants d'abord » d'Evelyne Maire. Lisez-les et vous en sortirez avec un regard nouveau sur la mission que nous avons à accomplir auprès des enfants. Les nôtres, en premier lieu, bien sûr, ceux de l'Église, ensuite, en les remettant dans la prière au Seigneur, et tous ces enfants des rues, orphelins ou pas, mais qui ont tellement besoin de Jésus dans leur vie. Et au travers des témoignages, parce que ce sont deux livres de témoignages, il est bien indiqué avec les deux auteurs que combien il est plus facile de faire connaître Jésus à un enfant, non pas pour lui bourrer le crâne, mais parce que l'enfant est plus réceptif à la grâce de Dieu. Il est plus facile de faire connaître Jésus à un enfant qu'à un adulte, alors pourquoi ne pas s'engager dans ce beau et merveilleux partage avec un enfant que vous accompagnerez pendant quelques années ? En conclusion, de quoi sera fait 2015 ? C'est peut-être la question que vous êtes posée ou que vous vous posez, que je me pose. Avons-nous peur des conséquences de la pollution avec son corollaire du dérèglement climatique ? Avons-nous peur de nouveaux attentats en France ou ailleurs dans le monde ? Avons-nous peur de perdre nos forces, de perdre la santé ? Avons-nous peur de perdre notre travail ? Bien des questions, en effet, qui nous rappellent que si nous ne plaçons pas notre foi dans le Christ ressuscité, nous serons inévitablement plongés dans l'angoisse. Mais si, comme Noé, nous acceptons de tout remettre entre les mains de Dieu, alors l'arche nouvelle, la croix que Dieu a dressée à Golgotha, sera la voie qui nous permettra d'être au bénéfice de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le 24 décembre 2007, ce n'est pas ma mémoire qui me fait souvenir de cet épisode, c'est que je l'avais noté quelque part. Un des invités de l'émission C'est dans l'air sur Arte, dont le thème était Noël 2007, Noël après, c'était un spécialiste de l'islam. Cet homme a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Voici ses propos. Dieu est venu, il a donné son fils pour les hommes, alors que pouvaient bien proposer les autres religions ? Islam, bouddhisme, hindouisme, car il n'y a rien de plus grand pour Dieu que de donner son propre fils. Fin de citation. C'est vrai. Il n'est pas dit que l'arche de Noé était dotée d'une ancre. Accessoire qui me paraît superflu, car c'est Dieu qui a assuré la navigation. Néanmoins, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin d'être ancrés en Christ, et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6, verset 19. Un pasteur stagiaire terminait son témoignage de la découverte de Jésus par ces mots : « Ma vie sans Jésus avait une fin sans espérance. Mais aujourd'hui, avec lui, elle a une espérance sans fin. Ma vie sans Jésus avait une fin sans espérance. Mais aujourd'hui, avec Jésus, elle a une espérance sans fin. » Au commencement de cette année, que Dieu soit au commencement de tous nos projets.